Wikipédia.org, victoire à la Pyrrhus. Victoire obtenue au prix de pertes si lourdes pour le vainqueur qu'elle équivaut quasiment à une défaite. Voilà pour la notice Wikipédia du soir. Les DNA de ce matin, page 20, une victoire à la Pyrrhus pour les Bleus. Les Bleus qui ont gagné hier contre l'Orient. Deuxième victoire de suite, c'est une première cette saison. Mais une victoire qui coûte cher, d'où cette victoire à la Pyrrhus peut-être, puisque trois Strasbourgeois sont sortis sur blessure. Delaine, Silla, Motiba. Ceci mis à part, il faut dire qu'on a vu des choses pas trop mal hier à l'heure du goûter, surtout en première mi-temps. Une mi-temps de qualité peut-être, on va en parler, la meilleure mi-temps de la saison. On va parler de tout ça, c'est Cop Racing qui commence. Soyez les bienvenus. Avec moi en plateau ce soir, Frédéric Vogel. Salut Fred.
Bonsoir.
Animateur de Planète Racing sur RBS. Et face à toi, il y a Bruno Chiban, directeur de la publication de Zut Magazine. Bonsoir Bruno.
Bonsoir.
Zut, on va en parler, qui publie, s'il est tout frais, il sent le neuf, un magnifique hors-série sur le Racing, c'est déjà le numéro 4. Il était une fois, il est question notamment de fois dans ce beau et grand magazine qu'on va feuilleter un peu plus tard dans l'émission. Mais d'abord, je parlais de victoire à la Pyrrhus. Déjà, Fred, parlons de victoire tout court.
Deuxième victoire de suite, là, ça fait du bien.
Ça fait du bien. Que s'est-il passé dans ton cœur de supporter quand tu as vu que Strasbourg pouvait enchaîner deux victoires?
On a l'impression que la victoire à la 97e contre le Havre a eu un véritable déclic, parce que à Lorient, on a enfin vu un match complet du Racing Club de Strasbourg, même si effectivement il y a eu la réduction de score de Lorient, mais on a vu un Racing cohérent, une belle première mi-temps, et qui malgré l'effet de match, comme on l'a dit, notamment les blessures, on y en aura tout à l'heure, ne s'est pas écroulé non plus en fait dans toute la partie. On a senti un Racing solidaire avec un vrai plan de jeu. Et voilà, on peut dire quand c'est pas bien, mais il faut aussi souligner quand c'est bien. Et là, le Racing nous a fait plaisir hier. Et c'est trois points importants et qui leur permettent, alors ça c'est la surprise, parce que malgré les huit matchs sans victoire à la série avant, leur permettent quand même d'être dans la première partie du classement.
Avant ce qui de fait recevoir, plaisir à tout le monde, y compris à Charlotte qui réalise cette émission, comme ça on n'a pas besoin de préparer la deuxième page.
C'est ça.
On s'arrête à 9, donc comme ça on est content, le Racing est 9e. Bruno, ton cœur de supporter à toi?
Soulagé, parce que au-delà des trois points, ce qui m'importe, c'est qu'on a vu du jeu. On a vu du jeu, on a vu de l'engagement, et ça n'a pas été le cas très souvent cette saison. Mm-hmm. Ça fait quelques matchs que ça commençait, on sentait un petit peu qu'il y avait des par séquences de belles choses, mais ça restait quand même pour moi assez pauvre mm-hmm. en termes de possession de balles, en termes d'occasion surtout.
Qu'est-ce qui t'a plu collectivement?
Le rythme qu'ils ont pu mettre, leur engagement, voilà, principalement, je crois qu'ils ont joué en équipe et ils commencent à se trouver.
Alors, le rythme, d'accord, mais la deuxième mi-temps, c'est une non-mi-temps. Il y a deux buts en tout début de deuxième mi-temps. Le deuxième but du Racing avec Gamero, puis la réduction du score par Lorient. Et ensuite, alors il s'avère qu'il y a toutes ces blessures qui touchent en particulier les joueurs strasbourgeois, mais la deuxième mi-temps, ça n'a pas été du foot. Donc, des belles choses pendant une seule mi-temps, non?
Ouais, pendant 50 minutes, mais après c'est vrai qu'il y a eu un petit quart d'heure de flottement où on aurait pu craindre effectivement que le Racing se fasse reprendre. Après on a la chance aussi, on va pas se le cacher, que Lorient n'était peut-être pas dans le meilleur des jours, et on voit enfin tout ce qu'ils ont mangé, notamment en deuxième période. Moi je retiens aussi l'image des joueurs face à leurs supporters à la fin. On voit qu'à Lorient ça se passe pas bien du tout, contrairement à la saison passée. Mais voilà, le Racing a fait le job. J'ai apprécié aussi, encore une fois il faut le dire, le match difficile des Magas devant, qui a raté son face-à-face en première mi-temps, mais qui a été très bien inspiré en fait.
Ça a vraiment fait plaisir.
Et puis, ça fait partie de ces automatismes, c'est assez frappant, c'est vraiment des choses qu'on n'a vraiment jamais vues depuis le début de saison. Une touche à proximité du but adverse, touche, reprise de la poitrine des Magas dans la surface, et immédiatement après la reprise de Gamero. C'est quoi? C'est le travail qui porte ses fruits?
Ah ben j'espère. J'imagine que pour Emega, ça a été compliqué quand même. Il remplaçait quelqu'un qui a marqué beaucoup de buts et qui avait cette présence et qui avait cette grande taille aussi et qui remisait très bien ailleurs, bien sûr. Et je pense que pour lui, ça a été très compliqué. C'est effectivement une des premières fois où ils ont été spontanés. Et ça, c'est quand même important de se dire ces points vont donner de la confiance. Le classement, c'est bien. Moi, pendant très longtemps et encore, je regarde derrière plutôt. Réellement, et je me dis, ah tiens, on a 8 points par rapport au barragiste. C'est vraiment la question que je me posais. Donc pour moi, c'est de l'ordre de l'anecdote. Le classement, on est 9e, très bien. Moi, j'ai envie de voir le club mieux jouer, l'équipe mieux jouer. C'est ce qui m'importe. Et là, il y a quelques promesses.
C'est le travail qui paie ?
Bah, j'espère. Hein. Comme dit, Vieira avait toujours demandé du temps. On était plutôt sceptiques. Maintenant, effectivement, quand on voit des occasions comme ça et des actions qui terminent au fond, on peut l'espérer. Ne pas oublier que le Racing, sur le classement, effectivement, se retrouve en tête de son championnat, entre guillemets. C'est-à-dire celui-là de la deuxième partie où il a presque gagné contre tout le monde, sauf contre Nantes sur la deuxième partie du classement. Mais c'est vrai que voilà, il y a encore du travail. On le voit que parfois, c'est fragile. Mais peut-être pour la première fois, sur 90 minutes, c'est là où ça a été le plus cohérent. Mmh. Le Racing a enfin eu des temps forts, enfin eu de la solidité et ça paye derrière. Et je pense que dans la tête à ces jeunes joueurs, ça va leur faire beaucoup de bien.
Alors je disais tout à l'heure victoire à la Pyrrhus, hein, c'est ce que disent les TN. Le Racing a payé un lourd tribut à la victoire acquise à Lorient. Je le disais tout à l'heure, hein, j'ai plus ma notice Wikipédia sous les bras. Si, ça veut dire que cette victoire équivaut pour le vainqueur quasiment à une défaite. Est-ce que c'est exagéré ou pas, Bruno ?
Pour moi, c'est exagéré.
Parce on a perdu donc Motiba, sans doute pour malheureusement très longtemps.
C'est confirmé ce soir. Il a été opéré effectivement d'une fracture au niveau du genou, donc il sera absent plusieurs mois. Moins grave a priori que les ligaments croisés qu'on c'est aurait ça. Cru à un moment donné et craint surtout. Et donc voilà, mais il sera pas là pendant quelques mois. Et on perd une rotation devant notamment.
Sylla, protocole commotion.
On perd Sylla pour un match. Voilà. Effectivement, il revenait bien. Même malgré quelques pertes de balles, le match précédent notamment, je trouve qu'il commençait à prendre une place.
Et une situation un peu incertaine sur le but de Lorient hier après-midi.
Là, il a vraiment pas de chance encore, ça lui manque.
Pas de bol.
Mais on le perd pour un match et j'espère qu'il y a quoi faire. C'est la première de Sceaux hier soir, hier après-midi, pardon.
Bah, il risque d'avoir une deuxième peut-être.
C'est ça, absolument. Et puis de l'aide, c'est un coup. Donc à voir s'il tiendra sa place mercredi.
Donc pas victoire à la Pyrrhus ?
Non, pour moi, c'est même psychologiquement, je pense que c'est très important. C'est 3 points, donc non, je pense que... Après, pour Motiba, il joue vraiment de malchance.
Une victoire où on n'a pas la possibilité, les joueurs l'ont dit hier soir en zone mixte, on n'a pas chanté dans le vestiaire, on n'a pas célébré parce qu'on pensait à nos joueurs blessés et en particulier à Lebo Motiba. Une victoire comme ça, c'est quand même frustrant de ne pas pouvoir la célébrer à 100%.
Ouais, mais après, c'est vrai que Lebo Motiba, c'est quand même le sourire du vestiaire. Hein. Voilà, quoi qu'il arrive, il est toujours là, on le voit sur le terrain, après les matchs, même quand il jouait pas, toujours le sourire. Et même là, quand on voit Gilbert qui dit, même quand après sa blessure, il sourit encore dans le vestiaire, c'est quand même une force de la nature. Mm-hmm. Et on sentait les joueurs touchés quand même sur la fin. Et faut pas oublier que le Racing a presque joué plus de 13 minutes d'arrêt de jeu quand même. Il a fallu tenir. Et j'ai senti effectivement qu'ils avaient envie de l'accrocher, cette victoire, pour lui. Parce que quand ils sont venus le voir, quand il était par terre, ils ont su que c'était grave. Et on sait l'état des genoux, malheureusement, de Lepo Motiba. Mmh. Et ça peut être très grave pour lui. Et c'est pas la première. Ça va être dur pour lui aussi de revenir encore une fois. Là, il faudra être très, très fort mentalement.
Le Racing a joué 12 minutes et 15 secondes à 10 sans avoir le moindre joueur exclu. Puisqu'il y a eu d'abord, je cite encore les DN, 2-30 de jeu avant le remplacement de Delaine, 3-30 avant celui de Sylla et 6-15 après la sortie de Motiba. Puisque tous les remplacements avaient été faits.
Ils ont été solidaires. C'est ce qu'on peut remarquer aussi, ce que j'ai aimé hier, c'est qu'ils sont bagarrés. Il n'y a pas de football en deuxième mi-temps peut-être, mais il y a eu une équipe ensemble qui a essayé de garder ce résultat. Et on célébrera ensemble mercredi soir la victoire contre Lille.
Contre Lille, on en reparlera après. C'est injuste ou pas ? Et est-ce que les jaunes suffisent ? La faute sur Delaine, par exemple, de Dieng est assez brutale.
C'est jaune-orangé, mais ça ne méritait pas le rouge, je pense, clairement. Mais après, c'est vrai que sur l'action, le pied est quand même décollé, l'autre, il arrive. Je ne pense pas qu'il était aussi blessé gravement, en fait, sur le moment. Mm-hmm. Mais après, quand je ne l'ai pas vu se relever, voilà.
Et après, Touré, défenseur central d'Orienté, qui met Motiba par terre.
Ah oui, le coup.
Et qui est aussi responsable du coup de coude sur Sylla. Jaune foncé aussi, mais on en reste là.
Ah non, moi j'aurais aimé un rouge, en tout cas surtout par rapport à Motiba, qui filait au but et qui se fait défoncer, quoi, on va dire.
C'est pas qu'il retombe mal.
Il le calcule pas, en fait. Hein.
Est-ce que c'est qu'il retombe mal ou est-ce qu'il est.
C'est violent quand même, c'est une baraque.
C'est pas de sa faute si c'est une baraque.
Non, on est d'accord.
Non, mais le joueur surtout ne regarde pas vraiment Motiba, enfin, ne regarde pas le ballon en fait. Hein. Il fait tout pour faire une obstruction sur Motiba. Et malheureusement, effectivement, la blessure, comme tu l'as dit, elle est de malchance, hein, clairement. Moi, au début, je crois que c'était plutôt un coup de coude ou la tête qui avait pris. Voilà, il s'est écroulé au sol. C'est difficile, mais c'est vrai que voilà, le Racing va vivre des moments comme ça pendant toute la saison. Hein. Je pense que voilà, et si ça peut leur permettre effectivement de se renforcer dans la tête et gagner en solidarité, voilà, le prix à payer est dur, mais ça fait partie des combats qu'on aura à faire. On voit aussi au classement que d'autres équipes derrière, qui n'étaient pas bien comme Lyon, sont en train de revenir tout doucement, et que ces victoires-là, elles vont faire du bien. Et je pense que ce soit la victoire face au Havre, que celle-là à Lorient, elles vont sacrément compter à la fin du championnat.
Alors, il y a ceux qui sont blessés, qu'on va de revoir seulement dans un certain temps, on verra quand. Puis il y a ceux qui ont marqué des points aussi hier, au sens propre, comme Kevin Gamero. But juste après la...
Ça fait plusieurs matchs qu'il joue davantage et qu'il oriente le jeu. Ouais. Moi, il me fait penser un peu à Thomasson, dans le sens où il est derrière l'attaquant, effectivement, et il distribue, il a la qualité technique pour le faire. Mm-hmm. Puis on a retrouvé le joueur d'instinct, parce que son but est magnifique.
Et il en est à 99.
C'est ça, c'est ce que je dis, on va fêter le centième à la Méno, mercredi.
Kevin Gamero, ouais, c'est vrai que c'est une confirmation. Là, il y a un but qui vient un peu acter le truc, qui est très beau, qui est au terme de cette occasion dont je parlais tout à l'heure. Ce sera un symbole hyper fort, le centième but de Gamero cette saison, on l'espère.
Oh, je pense qu'il ne s'arrête pas aux chiffres, hein, mais c'est vrai que voilà.
Il a dit, comme à chaque fois, ce qui compte, c'est le collectif.
C'est ça, et puis dans ces équipes très jeunes, d'avoir un joueur de cette qualité-là, avec son CV, qui apporte effectivement cette maturité. On le voit parfois, il est capable de mettre le pied sur le ballon. Ça aide aussi à faire remonter le bloc. On l'a vu aussi sur l'ouverture vers Omega, c'est lui qui le lance, hein, clairement, directement de la surface. Voilà, il est capable de ça. Et puis la reprise, bah, c'est un but à la Gamero, quoi. Clairement, d'instinct, de buteur, vraiment, la reprise directement. Donc voilà, ça fait du bien d'avoir ce joueur-là. Charge aussi au coach de bien le gérer en deuxième partie de championnat, parce que c'est vrai que bah, voilà, à 36 ans, forcément, la récupération sur des enchaînements comme ça, c'est compliqué.
Il n'a plus les mêmes jambes, c'est vrai.
Mais il a envie de jouer, il a envie de jouer quand même.
On continue, Bruno, juste avant une pause, on continue de parler de Gamero et aussi des plus jeunes, parce qu'évidemment, on a une équipe très jeune. Et parmi les plus jeunes, il y en a qui marquent des points aussi encadrés par Kevin Gamero. On se retrouve tout de suite sur BFM Assist. La suite de Cop Racing de ce soir, on évoquait Kevin Gamero. Il est là, on en reparlera tout à l'heure, mais je fais déjà une petite parenthèse. Kevin Gamero dans le hors-série de Zut qui sort, le Zut de Bruno Chibane. Alors, il parle justement, Gamero, dans le magazine, de ses jeunes années. Gamero, l'ancien, qui encadre des jeunes qui s'en sortent pas mal. Il y a ce que le commentateur à la télé hier appelait la connexion bordelaise Bakwa-Mwanga. Ce but-là, de la même manière, donc c'est le but de la première mi-temps. De la même manière que le but juste après la mi-temps, je vais y arriver. C'est pareil, c'est sur une phase de jeu, c'est construit, il se passe quelque chose, il y a des automatismes.
Ouais, on les a retrouvés, effectivement, ces automatismes que les deux anciens Bordelais avaient. Bakwa, ça vient effectivement fructifier aussi et valider des bonnes périodes qu'il avait fait, mais ça manquait effectivement de finition, et le but aussi va lui faire du bien. Et comme tu l'as dit, ça c'est le résultat d'une action construite, ce qu'on n'avait pas beaucoup vu là-dessus au niveau du Racing Club de Strasbourg. Ouais. Et on a pratiquement eu autant de tirs cadrés sur un match qu'on en avait depuis le début de la saison. Donc ça aussi, c'est important. Voilà, c'est fédéral. Je pense pour la suite, même si c'est pas une fin en soi, parce que entre guillemets, hein, c'était que Lorient en face, et on sait que Lorient est plutôt malade en ce moment. Ouais. Mais voilà, ça fait plaisir aussi de retrouver ça, parce que c'est vrai qu'en ayant deux joueurs d'un ancien club qui avaient déjà joué ensemble.
Et oui, mais justement, pourquoi est-ce qu'ils mettent tellement de temps à retrouver cette connexion? On est quand même mi-décembre.
D'abord, eux ils jouaient bien, mais Bordeaux jouait mal déjà. Ça veut dire que c'était en deuxième division et c'était pas une grande équipe non plus. C'était des jeunes prometteurs qui avaient du talent, du ballon, comme on dit. Mais là, ils ont dû se fondre dans un nouvel environnement avec beaucoup de jeunes. Après, moi, je comprends pas le choix de se passer de Pritch et d'Aoulou complètement. C'est-à-dire qu'ils ont disparu. Alors qu'après, on peut pas dire après, on n'a pas les deux joueurs expérimentés. C'est le choix de l'entraîneur de se passer de deux cadres.
De l'entraîneur ou du club plus généralement, en avant les jeunes qui ont été recrutés récemment.
Bien sûr, mais entre mettre en avant des jeunes qui doivent travailler, qui doivent progresser, ils ont d'être entourés aussi. En tout cas, on l'a vu longtemps. Mmh. Mais en tout cas, ce n'est pas le moment, puisque hier, il y a eu des promesses. Ouais. Mais c'était un petit bémol ou une petite remarque que je voulais faire, parce que oui, on manque d'expérience, on a besoin de structurer un peu notre jeu.
Bah quoi, on a envie qu'il frappe hein, de temps en temps. Ça part bien. Pour l'instant, il n'y a pas eu de... Il y a eu une transversale, il y a quelques matchs, si je ne me trompe pas, de Bakwa, mais ça peut faire des beaux buts aussi. Hein.
Ouais, et puis on les sent plus libérés en fait, à l'extérieur, finalement, parce que, bah, comme tu l'as dit, ça reste des jeunes joueurs. On sent qu'à la Méno, ils ont cette pression quand même. Hein. Mmh. Et à l'extérieur, ils ont l'air plus libérés aussi quand ils ont la possibilité de prendre leur chance. Voilà, ça demande encore à être confirmé. Encore une fois, c'était qu'un match. Hein. Je rappelle que contre le Havre, ça a été très difficile pendant 96 minutes aussi. Hein. Ça a été très 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 long. Voilà, et que ce but effectivement de Silla fait du bien aussi. C'est des petits morceaux encore, des petites briques qu'on commence à construire tout doucement.
Au milieu, voilà. Il y a aussi Sissoko. Hein,
bah oui.
Le retour, pour le coup, fait pas partie des petits jeunes.
Non, mais qui revient bien.
Qui fait peut-être à la faveur de l'absence d'un petit jeune, sûrement, de sûrement. Doucouré. Match solide, comme on n'en avait pas vu depuis un certain temps, non ?
Ah, je pense que ça fait plusieurs mois. Qu'il n'était pas à ce niveau-là. Je pense que le fait d'enchaîner lui va bien. Même si c'est par défaut, il est là. Il a commencé par grappiller un peu de temps de jeu et puis il a montré qu'il apportait quelque chose.
Il apporte quoi justement dans le jeu ?
Sa présence, son engagement, les ballons qu'il va ratisser. Il n'a pas la même technique que Doucouré, qui, comme tout de suite, montre une aisance assez incroyable avec le ballon, même si derrière, il y a des cagades aussi, et des mauvaises relances. Ouais. Mais je pense qu'il rassure.
C'est un poste ouais, dans l'impact physique aussi. Hein. C'est vrai qu'on était un peu en carence de ça les derniers matchs aussi, où face à parfois quelques joueurs un peu physiques au milieu de terrain, on était un peu en perdition. Là, on voit qu'à chaque fois, il a été au ballon aussi. Et puis avec son style, effectivement, ça faisait quelques mois qu'il n'était pas forcément dans les radars non plus du coach. Là, les éléments ont fait que. Avec les absences encore, comme tu disais avant, bah, ça va encore être là aussi. On va falloir compter sur lui. Et lui qui est bientôt en fin de contrat, bah voilà, c'est peut-être le moment aussi de se montrer maintenant que le club a besoin de lui. Alors c'est pas Oulu, c'est pas Persic, mais finalement c'est Sissoko qui sort du bois.
C'est ça, c'est le rescapé
de Rio. Et voilà, et peut-être qu'il va nous faire du bien quand même là sur cette partie de saison.
Ouais. Espérons le. Alors le prochain match c'est
mercredi.
C'est mercredi.
C'est mercredi contre Lille, ça va être autre chose. Hein.
Contre Lille, ça va être autre chose.
Ah ben Lille, j'ai l'impression qu'ils sont très solides. Ils ont égalisé, certes, hier soir, à dernière minute, contre le Paris Saint-Germain. Mais ils sont, si pas bêtis, ils sont quatrième.
Ils sont quatrième avec 28 points, nous, on est neuvième avec 20 points.
Il y a du jeu. Il y a des joueurs très techniques, une vraie présence. Ça va être un match qu'on a envie de voir, de toute façon, déjà.
Ça peut aussi être, Fred, un match avec une chouette ambiance de fin d'année, de Noël.
Ouais, puis l'avantage, c'est qu'on est libéré. On a engrangé 6 points sur les deux derniers matchs. Avant, il y avait aussi quelques points qui sont arrivés. Le Racing, là-dessus, n'a rien à perdre. Mais ce serait bien de finir l'année avec un match référence face à une équipe devant lui. C'est ça qui manque aujourd'hui au Racing Club de Strasbourg. Ils ont marqué des points, comme je l'ai dit avant, sur pratiquement tous leurs matchs derrière eux. Il manque vraiment une victoire face à quelqu'un qui est devant eux. C'est dur d'enchaîner parce qu'ils ont joué dimanche, ils vont rejouer mercredi avec tous les absents. Voilà, il va falloir être costaud. La météo en plus a perdu quelques degrés, donc ça va être difficile. Mais Lille est dans la même position, ils ont aussi enchaîné l'Europe. Donc voilà, autant se faire plaisir. On espère qu'il y ait un bon match parce que le public, on l'a senti face au Havre, un peu amorphe, un peu aphone aussi dans l'intensité où quand il y a pas de jeu, bah il y a pas beaucoup d'ambiance. Ouais. Voilà. Qu'ils nous fassent plaisir, qu'ils se fassent plaisir. Le job a été fait face à Lorient et à Le Havre et au Havre, pardon. Qui étaient des adversaires directs, autant se faire plaisir face à Lille, et puis voilà.
Pour une belle fête de fin d'année, avant les fêtes de fin d'année. Fred, est-ce que tu as lu Zut ?
Bah, j'ai pas celui-là encore, parce que.
Il est à peine sorti !
Mais oui, c'est pour ça.
Mais Fred était dans un numéro précédent, quand même.
C'est ça, c'est ça.
C'est ça.
Mais c'est toujours. Moi, ça fait. Ce que je disais à Bruno, ça me fait plaisir que des entités comme la sienne, effectivement, prennent le temps de faire des portraits de toutes les personnes qui gravitent autour du Racing. Et on découvre surtout des gens passionnés. Et c'est ce qui finalement nous unit, en fait, dans ce Racing. Et on trouve effectivement plein d'éléments, plein de portraits des gens d'univers totalement différents. Voilà, moi, ça fait plaisir de le voir sur le papier. Parce que,
et les supporters en même place que les joueurs, les dirigeants ou autres. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée que. Ce peuple Racing, qui est très divers, on puisse le retrouver, que ce soit un menuisier, un chef d'entreprise, Fred, il y a quelques années, enfin, des journalistes, puisque Mathieu Chanvillard...
Il y a Chanvillard, je vais le montrer, je sais pas si
il n'est pas là ce soir, mais il est quand même
il
là.
Il n'est pas là, mais il est là quand même avec nous ce soir, Mathieu Chanvillard. C'est page combien ? C'est page 168. Le projet n'est pas clair aujourd'hui. Il parle évidemment du projet des nouveaux propriétaires du Racing, Blueco.
Et il évoque un sujet intéressant. Il évoque les moyens qui seront donnés au Racing. Mais aussi, il semblerait qu'on ait évoqué le fait qu'il s'agisse de recruter des joueurs de moins de 23 ans. Ouais. 23 ans maximum.
23 ans maximum.
Le projet. Là aussi, il n'a pas tort.
Et c'est ce qui se murmure, paraît-il, pour l'hiver prochain. Beaucoup d'argent. Pour recruter des joueurs, mais tous de moins de 23 ans. Pour les gens qui ne connaissent pas ce projet de hors-série de Zut, de quoi s'agit-il en fait ?
Alors Zut, c'est un city magazine qui existe depuis 15 ans. On vient de fêter notre 15e anniversaire, donc on parle de culture, de mode, de déco, de gastronomie, de tourisme. Et il se trouve que par ailleurs, je suis passionné de racing depuis que j'ai 11 ans, puisque j'ai eu la chance d'aller voir l'équipe à la Méno en 79, donc le titre. J'ai commencé par le meilleur.
Ouais,
après, il y a une certaine exigence qui se met en place. Et j'ai eu envie de réunir... de faire un projet autour du racing en 2020. On a fait un magazine de 436 pages qui comptait 40 ans de passion. Et puis on s'est pris au jeu, on s'est dit on va continuer. Donc j'ai fait les trois premiers numéros avec Fabrice Vonnet, qui souvent intervient ici à Cop Racing.
Un habitué de cette table.
Voilà, et ce numéro a été porté par Raphaël Heyer, qui avait déjà écrit l'année dernière et qui a porté une nouvelle rédaction du 109, comme au Racing.
Et avec une dimension spirituelle, donc.
Absolument.
Dans ce magazine, puisque Racing, il était une fois. Je cite Mandel Samama, qui était déjà sur ce plateau, c'est le
rabbin de la Méno.
Les commentaires de foot, on dirait du Talmud.
Oui, puis il raconte aussi, vous verrez, il raconte aussi qu'il fait des prières régulièrement pour le Racing et qu'il avait prié, il a commencé le jour où Liénard a marqué contre Lyon.
Ah, voilà.
Donc depuis, il ne s'arrête pas et Marc Keller lui demande régulièrement. Il y a plein d'anecdotes.
Merci Mandel pour hier après-midi.
Bon, la fois aussi, parfois. Hein.
Et l'idée, c'est que justement, il y a un rabbin, il y a quelqu'un, un membre d'initiative citoyenne musulmane, il y a un ancien pasteur, un ancien prof de théologie, il y a un seul Dieu, hein.
La tradition alsacienne interreligieuse, jusque dans un magazine sur le Racing. Ça fait donc plein de pages.
Les anciens joueurs, je vais juste dire aussi qu'effectivement, on est très content d'avoir Djikou, d'avoir retrouvé Habib Bey. Et chaque fois, on les dessine. La particularité de Zut, c'est que c'est, j'espère, un bel objet où il y a une place très importante à la photographie, à l'illustration.
Habib Bey et coup de cœur pour Anthony Gonsalves, qu'on n'oubliera jamais.
Juste pour le plaisir, je vais juste montrer ça si j'ai 30 secondes.
10 secondes.
10 secondes, alors je ne vais jamais le trouver, attends.
Qu'est-ce que tu
c'est
cherches
terrible. Je cherche ça.
Tu sais quoi ? Ah, une BD.
Timothée Osterman, une bande dessinée, très très drôle.
Bruno,
le nouvel entraîneur, c'est Storch.
Il n'y a pas que le foot dans la vie, il faut qu'on regarde le reportage Omnisport que nous a concocté RMC Sport comme chaque semaine. On regarde. Il n'arrive pas à le reportage RMC Sport concocté par RMC Sport comme chaque semaine. Il arrive, on me dit. Parce qu'en fait, RMC Sport, c'est un peu loin le temps qu'il arrive. Est-ce qu'il est là, le reportage RMC Sport, Charlotte ? Il est là. Hop.
Il fallait bien ça à la SIG pour se relancer. Affronter Boulogne-Levallois, dernier de Betclic Elite. Le combat a pourtant été rude, malgré une grosse prestation de Paul Lacombe, 18 points. Ce sont les Metz 92 qui sont devant à la pause, 37-36. Les Alsaciens passent devant, mais Boulogne tient et finit par se faire distancer à 5 minutes du terme. Victoire 74-61 de la SIG après 4 revers consécutifs, toutes compétitions confondues. Demain au Rhenus, les Strasbourgeois affronteront Oldenburg en Ligue des Champions. Objectif, valider leur ticket pour le top 16. En volet féminin, la logique aura été respectée. À Nantes, leader du championnat, Mulhouse n'aura pas tenu le choc. Devant plus de 4400 spectateurs, record d'affluence pour un match de volley féminin dans l'Hexagone, le premier set est accroché. De quoi nourrir quelques espoirs chez les Alsaciennes, mais le VMA n'obtiendra guère plus. Les joueuses de François Salvani lèvent le pied à la moitié de la deuxième reprise et Nantes déroule. Défaite 3-0, Mulhouse 4e affrontera Chamalières demain. Et pour finir, un titre mondial, cela valait bien quelques pas de danse. Au Danemark, Laura Flip et l'équipe de France féminine de handball sont venues à bout de la Norvège en finale du championnat du monde. La Strasbourgeoise a inscrit 2 buts. Le premier en s'engouffrant dans un petit espace pour inscrire la 3e réalisation française. Le second avec un peu plus de réussite et de loin. Score final 31-28. L'arrière du CSM Bucarest, blessé en phase de poule, remporte donc avec les Bleus le 3e sacre mondial de l'histoire de la sélection.
On est en retard, c'est la fin de Cop Racing et la semaine prochaine.